Juste avant de parler, vous avez, pour ceux qui le connaissent, les salutations de Balduino. Ça fait un petit temps que je ne le voyais plus, une dizaine d'années facilement. Et hier, son gamin jouait au football à Pontacel, mais il doit être 2 heures à l'avance et il est passé à la maison pour me dire bonjour. Et en même temps, il m'a dit, remets bien le bonjour à mes frères et à mes sœurs de l'assemblée de Jumet. Directement, il m'a posé la question, et Benoît, comment va-t-il? Balduino. En tout cas, ça me fait plaisir parce que je vois des personnes que je ne connais pas et ça me fait plaisir que vous êtes présents, mais d'autres que je connais qui viennent de Liège et qui viennent me voir. Non, ils ne viennent pas me voir. Mais tout simplement pour Anne. Voilà. Est-ce que nous avons passé une bonne semaine? Parfois les semaines sont dures et difficiles. Et nous voyons un homme dans le Nouveau Testament que tout le monde connaît, c'est l'apôtre Paul. Rappel à une église qui est l'église de Corinthe, et je crois qu'aujourd'hui il nous le rappelle à nous, Jumet. Il rappelle à cette église qu'il était constamment accablé de toutes sortes de souffrances. Bien sûr, il avait sa souffrance de sa maladie, mais également la souffrance qu'il y avait des autres apôtres, soi-disant apôtres, qui s'infiltraient dans les églises, et notamment à l'église de Corinthe. Et ça le souffrait à l'apôtre Paul, mais d'autres souffrances également. Et il commence à dire à cette église, mais non écrasée. Nous sommes inquiets, dans la détresse, mais non désespérés. Mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Dieu ne nous abandonne pas. Abattus, jetés par terre, mais non détruits, mais non perdus. Dans la souffrance de Paul, il rappelle à cette église, mais, non écrasés, mais non désespérés, mais non dans le désespoir, mais non abandonnés, mais non détruits, mais non perdus. Peut-être que cette semaine, nous avons passé une semaine dans la difficulté, dans la souffrance, avec l'un, avec l'autre, notre voisin, nos collègues, notre famille. Nous avons telle maladie et nous sommes dans la souffrance. Et Paul encourage cette église. Pourtant, c'est lui qui est dans la souffrance, de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. Alors, comment Paul, il fait pour ne pas être écrasé dans ses difficultés, dans ses souffrances, dans ses persécutions? Comment il n'est pas désespéré? Comment il est sûr qu'il n'est pas abandonné? Comment il n'est pas détruit, perdu par toutes ces souffrances? Parfois, on se sent abandonné. Quand nous arrive une tuile, ça va. Mais quand ça suit, on se croit qu'on est abandonné. Et l'apôtre Paul dit, mais non. Je ne suis pas abandonné. Ben, on va voir la suite. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Nous lirons les versets 16 jusqu'au chapitre 5 et nous lirons les 10 premiers versets. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, au verset 16, 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance ou de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage ou de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Voilà la lecture de ce matin. Paul commence à dire, nous ne perdons pas courage. Et d'autres versions, bien sûr, disent confiance. C'est tout à fait la même chose. L'apôtre Paul était prêt à supporter toutes sortes d'épreuves. Qu'il commence à dire, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur se détruit. Et je crois que tout le monde le sait, que ce corps se détruit petit à petit. Je remarque maintenant, j'ai plus 20 ans, mais le matin quand je me lève, je ressens toutes les douleurs de mon corps. Oui, à mon âge. Quand c'est pas mal au dos, c'est à mes chevilles. Quand ce n'est pas ma cheville, c'est mon genou ou mon épaule, etc. Ce corps, on ressent toutes les douleurs. Et l'apôtre Paul ne regarde pas et ne s'arrête pas sur la souffrance ou sur la persécution ou sur la maladie, parce que Paul sait que cet homme qu'il vit se renouvelle de jour en jour. Cette personne qu'il est à l'intérieur de lui se renouvelle de jour en jour. Alors, comment ça marche? Je me souviens, avec mes collègues, on a fait un match de mini-foot. La plupart de mes collègues n'ont plus 20 ans. Et voilà, à la mi-temps, il y a un collègue qui vient me trouver, il me dit, Gino, tu sais, mon esprit me dit de prendre le ballon, de dribbler un homme, un deuxième homme, de passer à l'autre. Ça, c'est mon esprit qui me dit ça. mais mon corps n'y arrive pas. Alors j'ai commencé à rigoler, mais combien ça me parle. Notre esprit souhaite de faire telle et telle chose, mais le corps n'y arrive pas. Et Paul sait, tant qu'il vit dans ce corps, il vit dans la souffrance. Mais à l'intérieur de lui, il y a cet esprit qui lui dit, ne te décourage pas. Parce que de jour en jour, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? Mais il s'approche de plus en plus de la mort. Il s'approche de plus en plus de la mort, qui veut dire, bien sûr, la résurrection. Alors Paul ne regarde pas les choses qui sont visibles, son corps de souffrance, mais il regarde les choses qui sont invisibles, qui est la résurrection. Paul savait qu'il serait auprès de Jésus. Parce que Jésus, et on l'a dit, Jésus est venu sur la croix pour l'apôtre Paul, pour chacun de nous. Et Jésus est ressuscité après 3 jours. L'apôtre Paul savait également qu'il serait ressuscité. C'est pourquoi Paul répète « mais non désespéré, parce que Jésus a payé pour lui. Mais non dans le désespoir, il sait où il va. Mais non abandonné, il sait que Jésus est toujours avec lui. Mais non détruit, il sait qu'il va recevoir ce corps, un corps glorifié. Mais non perdu, il sait qu'il a un domicile céleste en lui, en Jésus. Il sait qu'il ne doit pas s'arrêter et regarder sur la souffrance. Voilà le premier secret de l'apôtre Paul. Il sait que ce corps qu'il vit aujourd'hui, c'est un corps de souffrance, mais qui se renouvelle de jour en jour, parce que de jour en jour, il s'approche de Jésus-Christ. Alors, cette semaine, avec mon collègue, c'est un chrétien, qui s'appelle Mario, vous l'avez déjà entendu, il souffre de sa cheville. Et je lui répétais ce que je méditais durant la semaine. Je dis, mais ce corps qu'on vit, hein, Mario, petit à petit, il se détruit et on souffre. Alors il me répète, je voudrais tellement, tellement qu'on souffre plus et qu'on passe de la mort et puis à la résurrection. Mais ça, c'est le souhait même de l'apôtre Paul, de chacun de nous. La souffrance, on n'en veut pas. Qui veut la souffrance? Personne. Mais pourtant, elle est là, elle est présente, jour après jour, semaine après semaine. Peut-être que ça dure des mois, des années. Mais nous nous approchons, petit à petit, de Jésus-Christ, de cette résurrection. Voilà le secret de Paul. Et Paul continue et enchaîne dans ce chapitre 5. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est une habitation qui est éternelle. L'apôtre Paul sait qu'il est de passage sur cette terre. Je me souviens, quand mon papa était encore vivant, dans ses derniers jours, il était dans un home. Je vais le voir, comme d'habitude, mais cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me souviens plus, j'ai pris mon papa pour aller faire un petit tour, mais je ne sais plus où ce qu'on a été exactement. Et voilà qu'il était dans la voiture et il regardait par la fenêtre. Vous savez, quand vous êtes dans un home, à part les quatre murs qu'on regarde, ou sinon la télévision, il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Et là, dans la voiture, il regardait. Et il commence à dire, ils croient qu'ils vont rester pour l'éternité. Je dis, papa, mais pourquoi tu dis ça? Mais tu vois pas ces grandes et ces grandes maisons? On dirait qu'ils vont rester pour l'éternité. Mon papa savait qu'il lui restait plus beaucoup de jours sur cette terre. Et il savait tout ce qu'il avait allait rester ici. Nous avons une vie, chacun de nous, qui veut accumuler de biens, des choses que nous voulons et que nous voulons, comme si on va rester sur cette terre. Mais l'apôtre Paul, il n'a rien du tout. Rien du tout. Mais il désirait une chose, c'était il avait ce désir de revêtir le domicile céleste. Quel secret de l'apôtre Paul. Il voulait se revêtir du domicile céleste. J'aime ma carte d'identité. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je la prends, je regarde et c'est marqué, Gino, n'oublie pas, tu es que un séjour ici. Un séjour. Je suis qu'un pauvre voyageur. Je sais que mon domicile est également mon domicile céleste. Est-ce que ça ne m'encourage pas de le savoir, que j'ai un domicile céleste? Paul, quand il sait cela, qu'il va recevoir un domicile céleste, il sait une chose, et c'est très important de le savoir. C'est tout simple. Il sait que la souffrance, ce sera terminé. Il sait également que la maladie, ce sera fini. La persécution, ce sera fini. On ne parlera plus jamais de sujet de mort. Paul sait tout cela. Et vous allez dire, mais comment Paul sait tout cela? Mais tout simplement, l'apôtre Paul dit, nous avons reçu les arts de l'esprit. Et l'esprit dans notre vie est la garantie de la promesse de Dieu. Ça va se réaliser, mes frères et sœurs. Nous aurons ce domicile céleste. Nous avons reçu les arts de l'esprit. Mais les arts de l'esprit veut dire aussi que nous avons reçu une partie de l'esprit, pas la totalité de l'esprit. Le jour de la glorification, nous aurons la totalité de l'esprit. C'est comme si nous achetons une voiture. Quand tu achètes une voiture, tu dois donner un acompte. Et puis, tu dois verser le reste. Et Dieu a fait la même chose. Il nous a donné un acompte. Florent Varac, j'aime bien quand il dit ça, nous avons reçu l'apéro. Puis, ce sera le grand dîner. Paul sait par l'esprit qu'il a reçu un domicile céleste avec un corps glorifié. Mais Paul sait très bien qu'il lui reste un seul et un seul ennemi. Et cet ennemi, c'est la mort. Henri Blocher dit, la mort n'est pas la fin de la vie, mais la fin du péché. Je trouvais ça beau. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup qu'on ose dire cela. Je suis le premier. Nous sommes pleins de courage, nous aimions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il n'avait rien à perdre, l'apôtre Paul, sur cette terre. Nous, il y a tellement de choses qu'on y tient sur cette terre, qu'on ne veut pas partir. Je ne dis pas qu'on doit se donner la mort, ce n'est pas ça. Mais combien, jour après jour, on y arrive à ce domicile céleste. Et tous les jours, ça nous encourage de savoir qu'on s'approche du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le deuxième secret de l'apôtre Paul, ce domicile céleste. Et Paul enchaîne avec ce verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et là, je dois faire très attention. Et on doit être attentif. Le tribunal de Christ n'est rien à voir avec le salut. Le salut, nous l'avons reçu. Et Benoît l'a bien précisé dans Éphésiens. Nous l'avons reçu par Jésus-Christ. C'est lui qui nous l'offre. Même le oui que vous avez dit vient du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne vient de nous-mêmes. C'est lui qui a tout fait sur la croix pour nous donner la vie et la vie éternelle. Mais le tribunal de Christ est autre chose. Dans l'Antiquité, le juge ou les juges étaient sur l'estrade lors des jeux et les récompensaient la personne qui avait gagné. Alors le tribunal de Christ est plutôt le chemin que je vis maintenant en nouveauté de enfant de Dieu. Comment je marche? Quelles sont mes motivations? Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Mais Dieu le voit. En quelque sorte, on va retrouver là-bas tout ce que tu as fait. Ta générosité, tu vas la retrouver. Ta bonté, tu vas la retrouver. Tu vas retrouver ton temps, tout le temps que tu as passé. Et attention avec le temps. Parfois on fait pour faire. Mais ce n'est pas ça. Plutôt le temps où mon cœur est dans la consécration avec Dieu. Alors certainement, dans ce tribunal de Christ, nous allons voir les uns les autres. Nous allons voir certaines personnes dans leur ministère, durant tout leur ministère, étaient dans la maladie. Et on va voir cette récompense, qu'il est resté fidèle dans cette maladie, dans la maladie. On va voir certains qui ont été persécutés durant tout leur ministère. Regardez un petit peu porte ouverte, ces hommes et ces femmes. Et un jour, Dieu leur montrera qu'ils ont été fidèles. Certains ont été dans la séduction, dans toutes sortes de séductions. Hein. Mes frères et sœurs, j'ai envie de ça, mais on a tellement facile à avoir des affaires, je veux dire, en black. Mais c'est facile. C'est très facile dans la séduction. Comment tu fais? Est-ce que je le prends? Il me coûte 1000 euros moins cher. Mais je donnerai peut-être les 1000 euros à Dieu, mais ce n'est pas ça. Il préfère que tu donnes 1 euro. Regarde dans ta séduction comment tu agis. Et Dieu un jour, il dira, tu as été sobre, tu as été fidèle. Certains, on ne les voit pas dans l'église. Mais ils sont tout le temps là pour nettoyer l'église. Et un jour, Dieu dira, tu as été fidèle en ce que je t'ai demandé. Alors, c'est quoi les récompenses? Qu'est-ce qu'on va avoir comme récompense? Vous voulez savoir? Ben, je ne sais pas. Aucune idée. Certains spécialistes pensent que lors des 1000 ans, nous aurons tel et tel service. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je sais dans une récompense, c'est le jour où tu verras le Seigneur. Comment tu vas le regarder? Avec la tête baissée ou avec la tête en l'air? Et regarder le Seigneur Jésus. C'est une fraction de seconde, je crois. Parce que là, nous serons tous dans la joie. Alors, est-ce que c'est notre priorité d'avoir une récompense? Non. L'apôtre Paul met ça, c'est pas pour avoir une récompense, sa priorité. Mais sa priorité de l'apôtre Paul était d'être agréable à Jésus. Agréable à Jésus. Sa motivation était de persévérer au milieu de ses difficultés. Paul avait ce désir de demeurer fidèle dans tout l'accomplissement de son ministère. Pour entendre cette voix de Jésus un jour lui dire, c'est bien bon et serviteur. Alors, la conclusion. Paul savait que la vie sur la terre était une vie de souffrance, mais il ne regardait pas et ne s'arrêtait pas sur cette vie de souffrance, mais la vie éternelle, être avec le Christ. Il avait cette assurance de son domicile céleste avec un corps glorifié et l'Esprit de Dieu dans sa totalité. Il savait que tout cela était par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il persévérait. Il sait que le tribunal de Christ arrive bientôt et il va entendre cette voix de Jésus lui dire « Bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. » Paul, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Il le dit à Timothée, mais je lui dis pour lui. Paul, sa vie était une vie de souffrance, mais il dépendait de Jésus-Christ. Alors, dans ce message, quelle application je vais avoir durant ma vie, durant cette semaine? Pourquoi pas, mes frères et sœurs, cette semaine? Oui, je suis dans la difficulté. Oui, je souffre. Oui, je suis persécuté par mes collègues. Oui, je suis persécuté par mon voisin. Oui, j'ai telle et telle souffrance. Nous gémissons dans ce corps. Mais pourquoi pas dire cette semaine, mais je ne suis pas écrasé. Mais je ne suis pas dans le désespoir. Mais je ne suis pas abandonné. Mais je ne suis pas détruit. Mais je ne suis pas perdu. Mon Sauveur, mon Seigneur, a tout pris sur la croix. Et je regarde la résurrection de Christ, que j'ai reçu cette résurrection. avec ce domicile et ce corps glorifié. Bien sûr, ce corps glorifié, on doit le savoir, la vie chrétienne a 3 étapes. On l'a rappelé tout à l'heure. La première, c'est que nous étions tous morts par nos péchés et nous avons tous passé par la vie lors de notre conversion. Voilà la première étape. Puis il y a la deuxième étape, quand nous mourrons, nous serons dans la présence de Dieu. Et puis il y a la troisième étape, le dernier jour, ce jour glorieux qui est avec ce corps ressuscité, un corps glorifié, où il n'y a plus de souffrance. Mais, il nous reste un dernier ennemi, c'est la mort. Mais je dirais également, mais je sais que Jésus l'a vaincu sur la croix, pour nous, pour toi. Alors, ne perdons pas courage. Nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Et nous savons que ce grand jour arrivera. Et on va entendre cette voix du Seigneur Jésus-Christ nous dire, c'est bien, bon et serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Alors, est-ce que ma tête sera relevée ou abaissée? J'aime cette image. Quand il y a une finale, et je veux dire une finale de foot, parce que j'aime bien le foot, regardez bien, quand c'est fini le match, l'équipe qui a gagné et l'équipe qui a perdu, il y a une grande différence. C'est que celle qui a perdu a la tête baissée. Mais celle qui a gagné, regardez bien au moment du trophée, quand il lève le trophée, tous les joueurs regardent le trophée. Ils ont la tête relevée. Mes frères et sœurs, nous sommes en finale. Il ne nous reste plus que la mort. Mais nous avons tous gagné. Et le jour-là, nous allons regarder le trophée qui est Jésus-Christ. Nous avons reçu ce trophée par la grâce de notre Seigneur Jésus. Soyons, cette semaine, non écrasés, non détruits, non abandonnés. Nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Amen.